Bienvenue à Coup de Bulle. Donc aujourd'hui, nous ne sommes que trois. Il y a des lâcheurs, mais l'essentiel, les meilleurs sont là. Donc je vais commencer par notre président, Jean-Luc.
Oui, bonjour tout le monde.
Et puis il y a aussi Laure qui va assurer toute la partie technique. Et c'est difficile, mais elle le fait parfaitement bien.
Je fais ce que je peux. Bonjour tout le monde.
Et puis donc Philippe qui est là
oui,
aussi.
C'est toi.
Voilà.
La conditionnelle. Le toujours présent, quasiment chaque fois.
C'est ça. Le fidèle.
Le fidèle. Le régulier.
Absolument. Donc on va commencer par un petit morceau de musique pour vous accorder quelques instants de répit avant d'attaquer les choses sérieuses en vous présentant toutes les BD qu'on a amenées et il y a de très belles choses dedans. Oui. Donc Laure, je te cède la place pour un petit morceau de musique.
Oui, on va écouter Jackson New sur l'album Bird of Prey de Charlotte Lawrence. C'est parti!
Drag me to death like a lit cigarette. Took my last breath like the smoke from my lips. I've lied for you and I liked it too. But my knees are bruised from kneeling to you. I've had enough, but you're too hard to quit. We've had our fun, now your sugar makes me sick. I've lied for you and I liked it too. But my makeup's ruined. Joke's on me. Joke's on you.
Et nous voilà revenus après ce très lascif morceau de musique. Donc c'est Jean-Luc qui va nous parler de Metal Hurlant suite à la sortie de la nouvelle version de Metal Hurlant. Tu vas nous...
Voilà, je vais vous parler un petit peu de Metal Hurlant. Tout d'abord, un petit peu d'historique pour, avant de vous parler de la nouvelle version. Metal Hurlant a été créé en 1975, donc
ça ne nous rajeunit pas.
Ouais, voilà, effectivement.
C'était quand ça?
C'était au siècle dernier.
Ah d'accord. Non, j'exagère, c'est
créé par, donc, tout le monde le sait, je pense, par Moebius, Druyer et Jean-Pierre Dionnet. Ça a été créé en 1975, ça a vécu jusqu'au numéro 146, jusqu'en 2006. Mm. Voilà. Sachant que dans les années 2000, il est repris quelques numéros au format comics.
Oui.
Avec des histoires. Sur la fin, c'était que des histoires et il n'y avait plus tellement de rédactionnel. C'est pour ça que je veux parler du nouveau Metal Hurlant, c'est parce qu'on retrouve cet esprit-là sans le rédactionnel de l'époque.
D'accord.
De Metal Hurlant. Voilà, donc il y a de très bonnes BD dans le nouveau Metal Hurlant, des moyennes, et puis il y a un peu de tout, mais bon, voilà. Mais l'esprit Metal Hurlant n'est pas là.
D'accord. Voilà. Tu trouves que c'est pas si réussi que ça.
À l'époque. Au niveau, oui, puis en plus, on ne parlera pas de la qualité du papier. Mais bon. Voilà. Mais quand j'achetais Metal Hurlant à l'époque, c'était parce que j'avais plein de petites nouveautés. Il y avait des petits des articles, Mange-Livre de Jean-Pierre Donnet, qui expliquait tout un tas de bouquins de science-fiction. Il y avait tout un tas de rubriques sur les films, notamment dans le numéro 8 de Metteur Hurlant, ou le numéro 5, je ne sais plus. Il parle des prochaines sorties, des prochains films de Lucas, qui prépare à Star Wars, de Spielberg, qui prépare à Rencontre de Troisième Type. Enfin voilà, des trucs. Il y a des annonces qui sont faites, alors que dans ce nouveau Metteur Hurlant, on est assez passif.
Il n'y a pas beaucoup de rédactionnel, comme
c'est
tu dis.
Il y a du rédactionnel, mais c'est pas... Voilà.
C'est beaucoup moins stimulant, c'est ça, finalement.
Alors, effectivement, on parle des films qui parlaient des années à venir. Donc, il y a tout un article sur les films de l'époque, 1984, New York 1997, Star Wars. Voilà, ce sont des films qui, à l'époque, nous faisaient rêver et puis prospectaient sur le futur.
Ouais.
Alors, ce que se veut le Metteur Hurlant de cette année, c'est le futur, c'est déjà demain. Mais voilà, on sent pas les... Même si dans les Metteur Hurlant d'avant, il parlait de l'avenir, de ce qui allait arriver, dans ce Metteur Hurlant, c'est des choses qui sont presque arrivées des fois. On parle
On a perdu Jean-Luc. Vas-y, recommence.
De l'intelligence artificielle et tout ça dans les maisons. Et voilà, c'est des choses qui existent déjà, quoi. Voilà, donc,
oui, finalement, beaucoup moins de surprises et d'inventivité.
Un peu moins d'inventivité, oui. Au niveau graphique, c'est assez...
Linéaire.
Oui, voilà.
Et du coup, alors là, parce que c'était la question que j'allais te poser, la qualité des BD qui sont dedans. Alors c'est comment? C'est une série? Ce sont des cours, des nouvelles, quoi?
Ce sont des cours, des petites nouvelles d'une dizaine de planches, voilà, avec des auteurs français, étrangers, espagnols, américains. Les scénaristes ne sont pas forcément français aussi. Donc, il y a un bel échantillon qui permet quand même de se rendre compte de la diversité de la bande dessinée actuelle. Mais c'est de la bande dessinée. Ça vous aide à trouver des auteurs, des dessinateurs que vous allez apprécier. Mais on n'est pas dans le Metteur Hurlant de l'époque.
Voilà. Et là, en plus, là, si j'ai bien compris, il y a un rythme de parution qui est un peu différent du Metteur Hurlant, qui était un mensuel à l'époque.
Oui,
et
qui
là,
était mensuel, oui.
Là, c'est-à-dire que c'est un trimestriel.
Qui est un trimestriel de 204, presque 300 pages quand même. Oui, hein, voilà, il y a de la lecture.
Hein,
voilà.
C'est
voilà.
Mais c'est un trimestriel et il y aura donc des nouvelles BD un trimestre sur deux. Parce que un trimestre sur deux, ce sera des reprises. De l'ancien Metteur Hurlant.
Voilà.
Donc... Là que tu vas pouvoir vérifier. Donc, on va pouvoir vérifier si le rédactionnel,
vraiment,
il a vraiment. Comment les choses se sont vraiment bien passées comme c'était prévu.
Alors, non, il est prévu que le numéro 2, ce seront des BD sélectionnés par Jean-Pierre Dionnet.
Ah.
Himself.
Bon,
himself.
Donc, peut-être voilà, que là, du coup, ça va être plus sympa.
Voilà. Je crois que les mensuels de BD n'ont pas encore trouvé le bon créneau pour se réinventer maintenant. Mmh. Alors peut-être que c'est lié à Internet, c'est lié au blog, c'est lié à tous ces médias-là qui font que bon, c'est difficile de...
Ah bah c'est clair, en termes de rédactionnel et de contenu, maintenant pour amener du contenu par rapport à des sites web ou d'autres formes de communication, c'est difficile, clairement. Hein. Peut-être pour ça qu'ils ne se sont pas lancés dans le rédactionnel d'ailleurs.
Voilà.
Mais on te sent tiédasse vis-à-vis
effectivement.
De
une petite déception.
Ah oui, effectivement. Hein. Voilà.
Oh, okay.
Vous retrouverez quand même dedans Hugo Bienvenu, Franck Brancanelli, Mathieu Bablé.
Oui, quand même.
Bien.
Mais Mathieu Bablé, je le préférais quand il était dans Midnight Taste, chez le label 619, qui était quand même plus,
incroyable.
Voilà, plus performant.
Ok.
Ouais, voilà.
Bon. À tester en sachant que voilà, ce ne sera pas du Metteur Hurlant d'antan. Quoi.
Alors, à voir, peut-être que c'est le premier numéro à suivre.
Peut-être
que
ça s'améliorera.
Ça va s'améliorer.
Ok.
Mais bon. Vous avez un bon pavé de lecture si vous souhaitez lire de la science-fiction, des nouvelles. Voilà, tout se finit, il n'y a pas de suite. Donc voilà.
Ok.
D'accord.
Merci,
eh ben,
Jean-Luc.
Maintenant, c'est Laure qui va nous présenter son choix, là. Après ce tiédasse Metteur Hurlant, on va voir.
Je vais essayer de remonter un petit peu le
niveau.
En tout cas, l'ambiance. Alors, moi, j'ai amené un grand machin. Une belle grande BD qui s'appelle La Manticore. Alors je sais que tous les deux vous connaissez déjà, qui a été donc écrit donc Sur la version que j'ai, c'est Maëlys Vigouroux, mais il me semble que maintenant, c'est
Maïeul
Vigouroux. C'est important de le préciser. Auteur que nous sommes très contents d'avoir eu au Festival à Tour de Bulle en septembre dernier. J'ai amené cette BD parce que je trouve que, bah, tout simplement, qu'elle mérite vraiment d'être connue. C'est un sacré ovni qu'on a là.
Rien que la couverture.
Rien
déjà.
Que la couverture, rien que le format, rien que le papier, la version souple.
La qualité d'impression.
La qualité d'impression, tout à fait.
Les couleurs.
Les couleurs incroyables.
C'est éblouissant. Hein.
Éblouissant, avec un choix donc, de couleurs en fait, assez monochromes et qui ont été superposées les unes sur les autres. Donc un travail d'infographie qui est assez incroyable.
En fait, oui, c'était imprimé en risographie.
Voilà. Tu peux réexpliquer ce que c'est exactement,
Jean-Luc? C'est un passage des quatre couleurs, en fait.
Ouais, c'est ça.
Elle est obligée de préparer ses planches en quatre fois avec les couleurs différentes pour s'imprimer.
Voilà, et on les met les unes sur les autres ensuite, c'est ça. Hein.
Et c'est des couleurs fluo. Enfin,
ouais, là, on est sur un orange pétant, un rose très, très fort, un bleu très profond, et je crois qu'il y a du jaune aussi, il me semble que c'est les quatre.
Et vous ne voyez pas, mais la qualité graphique est quand même exceptionnelle, parce qu'il y a du détail.
Il y a énormément de détails. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment sa découpe, parce qu'au-delà du côté dessin, elle a une découpe de page qui est incroyable. On peut suivre le cheminement d'un personnage sur une même page, presque un peu, je trouve qu'il y a un côté, comment décrire ça, un peu à la Où est Charlie, de suivre des petits personnages dans tout leur cheminement, mais tout en comprenant le dialogue, avec, je trouve, une histoire très travaillée, parce qu'au-delà de l'aspect graphique très réussi, on est sur un récit vraiment intéressant d'un personnage qui va se retrouver complètement chassé de sa famille, enfin chassé de ses rôle.
En fait, le père attend un enfant mâle et c'est une fille qui naît.
Et donc il n'en veut pas et forcément ce n'est pas la personne rêvée pour reprendre le trône malgré son caractère clairement ambitieux. On sent que c'est une personne qui peut prendre la main, mais son seul défaut, c'est son sexe, finalement. Mmh. Et moi, j'aime beaucoup globalement cette bande dessinée parce que je trouve que les rôles personnages féminins et masculins sont très intéressants à regarder. On a énormément, même dans les corps, les postures des personnages masculins complètement revisités. Je trouve qu'il y a des corps très doux, beaucoup dans la douceur, dans la tendresse, dans le calme et souvent aussi la tristesse. Énormément, les personnages masculins sont très tristes. Vont souvent avoir le pendant féminin, beaucoup plus en colère, beaucoup plus des personnages féminins qui en veulent, qui se battent, qui vont toujours prendre le dessus. Et ça fait du bien, en fait, ces rôles inversés, je trouve.
Non, mais
c'est vrai, ça...
C'est toi qui as les commandes de la technique, on va rien dire.
Ben, en fait, je trouve que, surtout, c'est des choses dont on a besoin de voir plus souvent en bande dessinée. Je trouve que c'est des choses dont on a envie d'entendre parler.
Voilà, et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un travail de fin d'études qui est assez exceptionnel quand même.
Voilà. Oui, puisqu'on est sur une personne qui a fait ça en même temps que ses études et qui n'est même pas encore à ses premières BD. Alors, elle a fait des illustrations de contes, de recueils de contes, si je ne dis pas de bêtises. Mais clairement, on a hâte de voir la suite. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que Maïeul va aller très loin, clairement.
Il y a un univers graphique très intéressant.
Ah ouais. Et puis un travail, là, je pense que là aussi, il y a une richesse de travail qui est vraiment formidable, quoi, c'est clair.
Ouais, et surtout, je pense qu'elle a une inventivité clairement très forte, et j'ai hâte de voir ce que va donner l'expérience, parce que là, en plus, on est sur une première BD, quoi. Donc, ça promet.
Alors, c'est paru chez qui? Parce qu'il fallait un éditeur qui ose...
Et oui, j'ai oublié de le dire, c'est Quintail Édition, qui est une toute petite édition, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois qu'ils sont déjà au troisième tirage, il me semble.
Oui, il me semble aussi.
Parce qu'il y a eu énormément... Alors, c'est des petits tirages, parce que c'est des petites...
C'est-à-dire que le procédé de lithographie, déjà, n'est pas simple à imprimer. Donc,
c'est ça, c'est du boulot. Mais en fait, c'est constamment redemandé. Donc, tant qu'on en demande, ils en font pour le moment. Oui, ça, c'est Quintal Atelier. Vous pouvez voir leur site sur quintalatelier.com, si jamais ça vous intéresse. Allez suivre ça.
Voilà, parce qu'il fallait quand même, faut le dire, un éditeur qui ait le culot, de se lancer dans une aventure comme ça. Quoi.
Encore plus quand au départ, le projet est un projet d'études, donc qui n'est pas du tout, qui a probablement été réfléchi pour être un projet éditorial ensuite, mais qui quand même prenait un risque énorme. Donc je te rejoins. Bravo Quintal Édition. Et merci. Et bravo Mayol, bien évidemment. On espère te revoir très vite dans le monde de l'édition de la BD.
Alors maintenant, après ce petit... Alors on a remonté le niveau là, je veux dire.
Ça va, c'est mieux ou pas?
C'est bien. Et on va pouvoir écouter un petit morceau de musique, un petit break musical.
Eh bien,
qu'est-ce que tu nous proposes?
Je trouve que j'ai plutôt bien pensé les choses parce que j'ai prévu Grande, du coup.
Ah, ça colle.
Ça colle, hein.
Ouais,
groupe Grande, on va faire la musique Highway. C'est parti.
Take me out on my highway. I'll drive aimlessly out on my highway. Is melting my fears and angst away. The night might be coming, still hoping for a thank you.
while driving Leslie out of my highway.
Et voilà, nous revoici sur cette émission Coup de Bulle. Et Philippe, ça va être ton tour de nous présenter une petite BD. Alors, qu'est-ce que tu nous as amené ?
Alors, je vais essayer de rester à un niveau de satisfaction élevé.
On avait remonté la barre.
Moi, honnêtement, je peux dire que je suis au même niveau que toi pour la Mandicore. Je vais vous parler Les Indésirables, qui est paru chez Rue de Sèvres et dont l'autrice est Kiku Hughes. Alors, c'est une bande dessinée d'origine américaine et donc qui a été traduite et qui est éditée par Rue de Sèvres en France. Alors ça nous raconte l'histoire de Kiku, c'est donc, on va dire que c'est une autobiographie romancée. Donc Kiku, alors c'est Kiku Hughes, c'est donc son premier album, et nous parle de de ce qui s'est passé dans sa famille. Elle est d'origine, lointaine, troisième génération de japonaise, installée aux États-Unis. Et cette BD finalement raconte un événement qui a eu lieu aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'enfermement de toutes les personnes d'origine japonaise, soit qui sont émigrées aux États-Unis directement, ou dont les parents étaient émigrés depuis le Japon, ou même les grands-parents. Donc toutes ces braves gens, suite à la déclaration de guerre entre les États-Unis et le Japon, eux ont été internés. De facto, dans des camps. Voilà. Et donc, elle nous raconte, alors c'est au travers d'un scénario où elle se propulse elle-même comme ayant 16 ans sur les pas de, avec sa mère, essayant, sa mère l'emmenant dès le début, retrouver la maison dans laquelle a habité sa grand-mère à San Francisco. Cette maison n'existe plus. Et elle est, ça a été remplacé par un centre commercial et donc l'histoire fait que elle fait un voyage dans le temps et se retrouve elle-même dans les conditions qu'a subi sa grand-mère et donc d'autres personnes comme elle déportées dans un camp de transit puis après dans un camp plus définitif on va dire et voilà et ça a duré pendant plusieurs années durant toute la
Seconde
Guerre mondiale voilà dès 1942. Alors, ce qui est quand même... j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien fait. Alors, graphiquement, c'est de la bande dessinée américaine moderne. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais enfin, avec des couleurs beaucoup d'aplats, mais en même temps, un découpage vraiment intéressant, assez collant vraiment bien au récit. Et voilà. Et donc, on va accompagner Kiku pendant toute son aventure, qui va lui faire découvrir tout ce qui est arrivé à ça. Alors, après, le récit continue. Et bon, je dirais que pour moi, c'est quand même une bande dessinée assez politique, dans le sens où elle traite d'événements qui, même s'ils sont passés, où on voit au cours du récit ou même vers la fin, qu'il y a des rapports avec ce qui se passe actuellement, notamment avec Trump qui voulait lui enfermer les Mexicains, puis, ce qu'il a fait, mais
pour les musulmans,
étrangers d'origine musulmane. Et puis on voit qu'il y a un écho aussi en France, hein, parce qu'il y en a pour qui on pourrait aussi enfermer les musulmans ou d'autres. Et puis il faut aussi se rappeler, alors donc ça c'est quand même important de s'en souvenir, hein, parce qu'aujourd'hui on a tendance à considérer que c'est il y en a qui considèrent que c'est normal ou qu'il faudrait le faire. Je pense que lire un ouvrage comme ça, ça permet aussi de voir le point de vue de ces personnes qui sont enfermées à tort, hein, de manière arbitraire clairement. Voilà. Et puis, il faut aussi se dire qu'en France, hein, à la même époque, il y a quand même eu aussi des camps d'enfermement.
Exactement,
hein. Il y a quand même eu 350 000 réfugiés espagnols qui ont été enfermés pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. Des manouches, des gens du voyage, au-delà des juifs, bien évidemment, mais qui, dans l'ensemble, étaient déportés.
Et donc, il y avait d'autres communautés. Les gens du voyage, il y a une très belle BD de Chris Minor sur les Tziganes du côté de Montreuil-Bellay.
Ah bah voilà, donc, parce qu'il y a eu plein de camps en France, hein, ouais. Vous pouvez chercher sur le net. Voilà. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment formidablement bien rendu. On voit bien aussi tous les problèmes des fois entre la première génération qui est émigrée, ouais. Et ceux qui sont de la génération de la deuxième génération, donc qui sont nés aux États-Unis mais qui n'ont plus du tout le même rapport, qui ont même des difficultés de communication, enfin bref, tout ça, non, c'est vraiment bien traité. C'est un très très bel album que ouais. Je vous conseille, et donc je vous rappelle Les Indésirables, Rue de Sèvres, Kikuyux, allez-y, c'est du lourd.
Ouais. D'accord. Je confirme, moi je me permets juste un petit complément parce que je l'ai lu aussi, et je trouve qu'en plus ça se saupoudre là-dessus, puisqu'on connaît, on connaît pas mal les histoires de concentration, hein, on en est clairement là, mais ce qui est intéressant, c'est que là c'est saupoudré aussi de la culture japonaise, qui est très dans l'intime, très dans la retenue, et qui explique aussi pourquoi cette histoire a tant de mal à sortir. Et je trouve que pour le coup, la jeune femme qui l'a écrit a aussi eu raison de prendre la parole, parce que je pense que ça fait partie des récits qui sont dits que maintenant, parce que justement une énorme pudeur de la part des Japonais qui fait que ça ne sort pas avant, quoi. Donc voilà, effectivement, je te rejoins, c'est à lire.
Voilà, absolument. Très bien. Un conseil de lecture à suivre sans hésiter.
Merci Philippe. C'est ça.
Et alors, je voulais juste faire une petite parenthèse, c'était que j'ai découvert cette bande dessinée grâce au club de lecture, et donc
oui.
Merci Sophie de me l'avoir fait découvrir, si jamais tu nous écoutes, c'est vraiment un très très bel
album. Oui, on peut dire un petit mot sur le club de lecture de
la
Tour de
Vue.
Oui,
le dernier a eu lieu au mois d'octobre et était sur le thème du voyage, et donc chaque mois, les bénévoles de la Tour de Bulle se réunissent autour du club, tout simplement pour discuter de BD, les échanger, se donner des petites idées de coups de cœur, et on les met en avant sur notre Instagram. Donc n'hésitez pas à nous suivre, puisque nous mettons toutes nos bonnes idées de lecture sur notre Instagram.
Et je crois que le prochain parlera de la folie.
Oui,
c'est ça.
J'ai très hâte de ce thème, ça va être rigolo.
Un club de
fous. Mais je l'ai dit, plus on est de fous,
plus on rit. Bon Jean-Luc, au lieu de faire des blagues, qu'est-ce que tu nous as amené?
Alors moi je vais rester aux États-Unis. Mmh. Mais je vais passer à 1954.
Ah, là on avance dans le temps. Là.
Voilà, on avance dans le
petit
temps.
Bon.
C'est pas de la science-fiction, mais ça y ressemble, parce que c'est l'histoire d'une météorite qui est tombée un jour sur une dame qui s'appelle Madame Hodge. Donc la BD s'appelle La météorite des Hodge, aux éditions Delcourt, de Fabien Rocher. C'est son premier album. Et en fait, c'est un album où il va parler du même événement, mais de tous les des différents points de vue.
Ok.
Donc la radio, la télé, comment c'est arrivé à cette personne là, à cette femme, parce que en fait la météorite a traversé son toit, a tapé sur sa radio, est allée la heurter sur le côté de son ventre et lui a fait donc une meurtrissure. Mm-hmm. Donc voilà. Donc et elle a cherché à en tirer profit, non seulement elle mais son avocat, son propriétaire, et il y a tous les points de vue. En même temps, il y a une page qui parle des météorites, il y a une page qui parle des autres personnes qui étaient aux alentours, qui ont vu la météorite tomber. Donc c'est que sur cet événement, mais c'est tous les points de vue différents qui ont pu exister autour de cet événement.
Autour de ça.
D'accord.
Cool.
Et là, je vois que graphiquement, c'est dans noir et blanc. Ouais. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a des gaufriers, ça fait un peu penser à du Jimmy Corrigan.
Exactement, tout à fait.
On est dans un univers graphique qui pourrait s'apparenter
oui.
à ça. Et,
oui, ouais. Effectivement. Je voilà, vais l'apercevoir.
Voilà, c'est...
Ah, merci. Oh, oui. Plein de, voilà,
plein de petites cases, voilà. Mais par moments il y a des mises en page très particulières sur la météorite, sur les pièces, enfin, ouais.
Là,
sur
le coup,
musée
le
qui va s'occuper,
ah ouais.
Le musée qui va s'occuper de la météorite, les gens qui assistent à l'événement.
Oui, avec même des histoires qui peuvent se dérouler en parallèle, quoi.
Voilà, exactement, ouais. Tout ce qui s'est déroulé en parallèle. Ah. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il a tout reproduit en dessin. Mmh. Tous les articles de journaux qui sont parus, il n'y a aucune photo. Vraiment, tout est reproduit dans le même style.
Ok.
Voilà. Donc,
c'est noir et blanc et avec une couleur, c'est une sorte de vert. Enfin.
Vert beige, ouais, vert clair,
ouais,
voilà, je ne sais pas trop.
Une sorte de...
Voilà, il y a des étoiles. Il y a même un passage qui est très intéressant, c'est qu'il y a la vision de la mouche qui se trouvait dans cette époque-là. Voilà, quand la personne se pose des questions.
Donc, voilà. Jean-Luc pas, ne vous montre pas, bien
mais
évidemment.
Mais c'est une page qui, au lieu d'avoir des cases, ce sont
hexagones.
Des hexagones.
D'accord. Voilà. Comme si on était dans les yeux de la mouche elle-même, en fait. Intéressant.
Graphiquement, c'est un très bon travail. C'est un premier album et je trouve qu'il est très réussi.
Ivoirable ?
Ivoirable, bien entendu.
On donne des petits teasings.
Voilà.
Comme le Tikouyouk, ça. Ivoirable aussi.
Et oui. Bon, voilà. Après, pour la faire venir, c'est une autre histoire, clairement. La notion de francophone est un peu compliquée.
Voilà. Donc, vous voyez, les articles de journaux, de magazines, enfin, voilà, c'est vraiment tout ce qui tournait autour. Autour d'un événement tout bête, hein,
oui.
Une météorite qui tombe.
Oui, c'est ça.
Alors apparemment, ça aurait été la première météorite à toucher un humain en tombant.
D'accord.
Ou référent, répertorié, parce qu'il y en a peut-être eu d'autres avant. D'accord. Et c'est paru chez qui, ça, du coup ?
C'est chez Delcourt.
D'accord.
C'est,
tout bêtement.
Voilà, c'est Delcourt qui publie aussi Jimmy Corrigan.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Ah, mais là, c'est un auteur français, un jeune auteur français.
Et en plus, avec un format quand même assez un grand format.
Oui, là encore, grand format, effectivement.
Ouais. Et c'est son premier album. Et pour alors, je pense que c'est effectivement, c'est du numérique, mais c'est un très grand travail de mise en page.
Ah, dis donc, tu m'étonnes, là. Ça, c'est clairement. Oui, et c'est un vrai intérêt, quoi. Enfin, moi, je pourrais te le piquer.
Oui, sans problème.
Ça y est, Philippe a été plus rapide.
Il
fait son marché.
Donc, je rappelle le titre, La météorite des Hodge. Donc, Madame et Monsieur Hodge. Mm-hmm. Madame Hodge qui a été blessée par le météorite.
Mm-hmm.
Et voilà, qui paraît aux éditions Delcourt de Fabien Rocher.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Luc.
Merci.
Alors, on continue avec une petite pause musicale à nouveau.
Why not?
Alors, nous avons, voyons voir, Manix Mixdown de Lalo Schifrin, c'est
ouais.
ça? C'est ça, hein
ouais.
Petite demande de Jean-Luc. Allez, c'est parti, je vous envoie ça.
Très 20e siècle, pour le coup. We'll be right back. Et nous voilà de retour maintenant pour vous présenter à nouveau deux bandes dessinées.
Oui.
Et donc cette fois-ci, c'est Laure qui va
s'y
nous...
coller.
Et oui, voilà. C'est mon tour, ça y est. Je reviens à nouveau avec une BD féministe, n'en déplaise aux autres.
Non,
ah bon, oh, tant mieux si ça vous déplaît pas, parce que je continuerai à le faire. Alors, non, alors aujourd'hui j'ai choisi il y a eu une magnifique biographie de George Sand qui a été faite par Séverine Vidal et Kim Consigny. Donc c'est George Sand, fille du siècle, aux éditions Delcourt. Collection Ancrage. C'est un beau pavé, je regarde rapidement le nombre de pages, voilà, 330, c'est pas mal. Mais en même temps, c'est ce qu'il fallait pour décrire la vie de cette femme incroyable que moi, j'avoue, connaître que unique. Je connaissais que par petites bribes. En fait, on...
Ouais,
voilà.
Son bouquin, la marronne.
Oui,
girl.
Voilà, on connaît quelques-uns de ses bouquins, on sait aller vaguement qu'elle s'habille en homme, mais c'est finalement un petit peu tout ce qu'on peut retenir parfois. Et en fait, c'était bien plus que ça. George Sand, c'est une femme qui, pour le coup, a la grande... je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, qui a eu envie d'écrire depuis qu'elle est toute petite et qui a donc des traces de sa vie, même de ses récits d'enfant, depuis très jeune. Et c'est ce qui fait qu'elle a pu faire de belles biographies d'elle-même en expliquant plein de choses sur son vécu, et c'est ce sur quoi ont pu se bêder ses auteurs pour tout simplement se plonger dans sa vie. Et en fait, George Sand, c'est une femme qui était éminemment joyeuse, éminemment vivante, plutôt politisée, étonnamment, mais surtout qui aimait beaucoup, beaucoup l'humain, qui était très sociale dans ce qu'elle pouvait écrire. Et on découvre un personnage qui a fait énormément pour ses contemporains, qui était très proche, parce qu'elle venait d'une famille relativement aisée, mais en même temps en ayant une mère qui a été vite dans la pauvreté. Donc elle a gardé en fait cette espèce de dualité entre une forme d'aristocratie et la proximité avec les gens du peuple. Et en fait, elle en parle de façon vraiment très intéressante. Et du coup, les auteurs ont carrément repris des passages entiers en fait, de ses écrits, pour illustrer. Et donc, c'est ce qui permet de découper la vie de George Sand en chapitres. Et si je retrouve, voilà, il y avait un beau passage. Je vais faire un peu de lecture, je me permets, parce que je trouve que ce passage, il est très très beau, donc extrait de « Histoire de ma vie » de George Sand elle-même. « Dans toutes les conditions où j'ai été libre de choisir ma manière d'être, j'ai cherché un moyen d'idéaliser la réalité autour de moi et de la transformer en une sorte d'oasis fictive où les méchants et les oisifs ne serait pas tenté d'entrer ou de rester. Un songe d'âge d'or, un mirage d'innocence champêtre artiste ou poétique m'a prise dès l'enfance et m'a suivi dans l'âge mûr. » Voilà. Je trouve que ça illustre assez bien, en fait, cette bande dessinée.
D'accord. Et graphiquement, alors, ça se présente comment ?
Alors, c'est vrai que je ne vous la montre pas depuis tout à l'heure, je me la regarde pour moi. C'est un trait assez simple, en fait. On peut le voir, noir et blanc pur, aucune couleur. Des traits plutôt ligne claire, hein, on est sur des choses assez peu détaillées, quelques grandes pages quand même, des aplats pour nous montrer quand même des scènes de vie, mais finalement le dessin est surtout très, j'irais pas jusqu'à dire réaliste parce que c'est quand même assez simple dans le trait, mais on est sur des choses assez efficaces, je trouve. Par contre, les visages ont été assez travaillés et on distingue bien les personnages, et c'est ce qui fait que moi je me suis beaucoup fait happer malgré les 330 pages, parce que quand même il faut se le manger, cette bonne BD. Mais voilà, je trouve qu'elle fonctionne quand même très bien. À noter que je n'ai pas lu l'autre George Sand qui est sorti en même temps. T'en parlais,
oui,
Jean-Luc.
Il y a eu une BD donc sur George Sand de Nina Jacquemin. Alors, le titre exact, je ne sais pas lequel.
Je crois que c'est juste George Sand. Je sais plus. Je peux chercher pendant que tu.
Voilà. Et donc là, c'est une BD sur un morceau de la vie de George Sand lorsqu'elle est à la campagne du côté de.
De Nohant.
De Nohant.
Ouais,
voilà.
De je crois que c'est ça. Il y a le titre de Nohant dedans. Voilà. Campagne à Nohant ou un truc comme ça dedans, il me semble.
Donc graphiquement, c'est intéressant aussi puisque c'est très joli.
C'est plus
très
travaillé au niveau des couleurs, notamment.
Voilà, au niveau des couleurs. Et puis, c'est le style de Nina Jacquemin est un style très clair au niveau lecture.
Oui.
Voilà.
Et là, je trouve que la couverture est plus efficace pour le coup que celle de Séverine Vidal et Kim Consigny, parce qu'on on voit George Sand en une sorte de carte de tarot avec moitié habillée en femme, moitié habillée en homme,
c'est ça,
qui résume bien, je pense, la dualité de cette personne, parce que clairement, c'était une personne qui était à la fois, pareil, encore une fois, très féminine et en même temps, qui aimait casser les codes énormément.
Voilà, et donc justement, en parlant de ça, moi, ça m'a fait penser à une BD qui est sortie aussi très, très récemment et dont on a eu reçu l'auteur.
Oui.
À Tour de Bulle, qui est donc Virginie Augustin, qui a fait paraître Jo la pirate.
Oui.
Voilà, donc c'est l'histoire d'une femme qui s'est comportée en homme tout le temps et qui a eu des aventures à la fois féministes et masculines, donc qui est aussi. Qui est chez Glénat, par contre, qui est sortie chez Glénat, Jo la pirate, mais qui est aussi sur une histoire de femme qui a brisé tous les tabous et qui a eu une vie. Trépidante.
Voilà, tout plein de bonnes idées pour découvrir le destin de femmes incroyables.
Ah mais
voilà.
En plus, George Sand, on parlait de normes.
Oui.
Enfin, si jamais un jour vous avez l'occasion d'aller visiter sa maison, c'est vraiment très très intéressant de voir sa manière de vivre. Et moi, je dirais que c'est au-delà de ça, c'est que elle aimait elle avait un sens de la communication, on peut dire, pour moi elle a quasiment inventé une part de la communication moderne, dans la mesure où elle aimait bien pour faire parler de ses livres, le scandale était un bon moyen.
Oui.
Et ça, je pense que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est retranscrit dans la BD,
mais ils en parlent
ça,
énormément.
C'est vraiment assez fort.
Ils parlent du fait, d'ailleurs, qu'elle n'a pas eu que des succès, qu'il y a eu beaucoup parfois de ce qu'on appelle aujourd'hui des bad buzz. Hein. Elle a été effectivement beaucoup dans ces choses-là, mais finalement, ça a toujours permis de parler d'elle.
C'est ça.
Et
alors, justement, à Nohant, on voit qu'elle vivait à Nohant la plupart du temps, ou à Gargilès aussi, un peu plus loin, mais elle y menait, enfin, un grand train, je ne sais pas particulièrement, mais elle avait beaucoup d'invités. C'était un monde littéraire et culturel très, très dense. Parce que, bon, son aventure avec Chopin a duré assez longtemps, enfin, bref. Et donc, elle écrivait un livre quand elle avait besoin d'argent, et hop, elle allait le vendre, enfin, faire un peu de buzz, hein, parce que
c'est
là, je pense qu'en termes de buzz, elle était balèze.
C'est ça.
Et ça marchait, parce que c'était vraiment, en plus, des ouvrages vraiment intéressants. Quoi. Enfin,
ouais, et on voit aussi beaucoup dans cette BD que c'est une personnalité qui a été capable d'être très appréciée, en fait, de ses contemporains. Les gens l'adoraient, en tout cas, adoraient être en sa présence, parce qu'il se passait toujours des choses formidables. Très grande séductrice également. C'est franchement pas caché dans le livre, et je trouvais ça très intéressant de le mettre en avant. Et voilà, du coup, c'est effectivement une femme qui a un destin extraordinaire et qui a su créer l'émulsion à son époque, en fait.
Absolument.
Voilà. Et bien, maintenant que j'ai beaucoup parlé, je vais passer justement la parole à toi, Philippe.
Mais tout à fait.
Alors,
donc là, on va passer d'une biographie, celle de George Sand, à une autobiographie. Donc moi, je vais vous parler de À cœur ouvert, paru chez Dupuis, par Nicolas Kéramidas. Alors, là, c'est très simple. Hein, le titre explique quasiment tout. C'est-à-dire que Nicolas Kéramidas a été un enfant opéré du cœur quand il était bébé. Et là, il nous raconte son histoire où, 40 ans plus tard, il se trouve avoir des douleurs dans la poitrine. Et on lui annonce gentiment qu'il va falloir y retourner. Et voilà, et il nous raconte donc c'est l'autobiographie de ce qui lui est arrivé, de comment il l'a vécu, de comment dès enfant il s'est retrouvé couvert de cicatrices, hein, c'est-à-dire que non seulement une ouverture au niveau du sternum, mais il y en avait ailleurs, et que du coup il a imaginé plein d'histoires vis-à-vis de ça quand il était scolaire, quoi. Et voilà, et donc là on le retrouve à l'âge adulte où il se trouve confronté avec, finalement pour lui il vivait normalement. Et en faisant du sport, ce qu'il n'aurait peut-être pas dû complètement faire, il se trouve que cette douleur est là et qu'on lui annonce que il va falloir faire une autre opération à cœur ouvert. Voilà. Et donc c'est tout son parcours. Donc c'est une BD qui fait quand même 200 pages. Alors il nous le retrace avec beaucoup d'émotion, mais aussi de pas mal d'humour.
Oui, parce que c'est ce que j'ai demandé. C'est quelqu'un qui fait de l'humour généralement dans ses BD. Donc
là, il y a quand même de l'humour. Il y a une certaine distance, hein, puisque maintenant, fort heureusement, il s'en est remis. Et il continue la preuve à dessiner des choses qui, moi, qui m'ont emballé, hein, puisque là, clairement, ça m'a vraiment emballé. Voilà, donc ça, moi, c'est mon deuxième conseil de lecture qui est issu du club de lecture, puisque c'est aussi, merci Steve, l'un des membres qui nous l'a présenté, et moi, j'ai trouvé ça, et lui, il l'avait beaucoup aimé, et moi, je suis 100% d'accord avec son choix. Voilà.
Graphiquement, peut-être
juste. Alors, graphiquement, j'ai du mal. Enfin,
moi, c'est pas facile à décrire.
Alors oui, c'est pas facile à décrire. Moi, c'est ça. On pourrait dire, ça instaure un style. Vraiment, on est dans du franco-belge humoristique.
Ouais.
Avec là, on n'est pas dans du semi-réaliste. Avec des découpages qui sont variables entre la double page qui nous présente, par exemple, une vue de l'hôpital ou de l'entrée de l'hôpital avec les circulations qu'il arrivait à faire une fois opéré. Avec donc, par contre, des cases. Là, on n'est pas dans un mode gaufrier. On a des cases qui ne sont pas limitées.
Oui, c'est ce que je vois d'ici. C'est assez peu codé, finalement.
Voilà.
Limité.
Mais moi, avec un trait assez rond, mais voilà, moi je.
Un brin, comment dire, j'allais dire crado, je me comprends, mais voilà, avec un effet très.
C'est assez dynamique aussi.
Très acide. Oui.
Voilà, il nous parle de la sonde urinaire, enfin, on a droit à pas mal de choses, mais c'est toujours vu avec un œil un peu, comment dire, un second degré qui est vraiment fort à propos, et on se dit, nom d'une pipe. Pour rester poli, il a dû en chier, le pauvre.
Ouais.
Et voilà, et on pense à tous ceux qui aussi sont dans la même situation. Moi, je ne peux que vous conseiller sa lecture. C'est paru, je répète, donc À cœur ouvert de Nicolas Tiramidas aux éditions Dupuis. Alors, c'est un album qui fait dans les 200 pages, hein, quand même, qui est un petit pavé, qui est d'un format un peu plus réduit qu'une bande dessinée, mais qui est très très chouette. Et vraiment un beau conseil de lecture.
Voilà. Super. Eh ben merci pour la découverte, Philippe.
Bah, merci à Steve. Hein.
Ouais, merci à Steve aussi. Merci au club, encore une fois. je lance une autre petite musique, la petite dernière de l'émission.
Allez,
je me suis fait plaisir. Je me suis mis Je suis Lost Control de Joy Division. Allez.
Magnifique.
C'est parti.
She expressed herself in many different ways.
Et voilà, nous voilà de retour pour Coup de Bulle. Alors dans cette partie, nous allons vous parler un petit peu de nos Tours d'Ivoire qui ont été élus cette année et qu'on va vous présenter parce que, comme d'habitude, c'est toujours des albums qu'on a envie de mettre en avant et pour lesquels on a tous eu plus ou moins le coup de cœur. Mais je pense qu'au moins pour la partie Tours d'Ivoire, les trois
nominés, oui, on a tous eu vraiment un coup de cœur puisque ça a été très difficile de les départager.
Ouais. Ça, voilà. Ça s'est un peu négocié fini au couteau.
Ouais, on s'est un peu battu, faut le reconnaître.
Voilà. Et encore, tout le monde n'était pas là, donc.
heureusement. Hein,
c'est pas plus mal.
Donc oui, tous les ans, on passe notre temps à lire des nouveaux albums. Et après,
on souffre beaucoup.
On souffre, voilà.
Ça.
On lit, ça nous permet de découvrir plein de choses que nous a fait le comité de sélection, qu'on peut remercier déjà.
Merci, merci à eux. Merci Laure d'en faire partie.
Je confirme, c'est un petit peu de boulot, mais voilà. Ça fait du bien de sélectionner 20 belles BD dans nos critères.
Il y en a 23,
un petit peu plus
25
cette année,
cette année,
peut-être
crois,
à peine 25, ouais, voilà. Tout à fait.
Et donc, on se réunit dans un lieu secret avant l'été.
C'est ça.
Et pour élire donc cette Tour d'Ivoire. Donc cette année, 3 albums sont sortis du lot. En troisième, il y avait Mégafauna.
Oui.
Voilà, donc. Alors, une uchronie, une utopie, je ne sais pas comment on peut
dystopie.
Dire.
Une
dystopie, oui,
je
peut-être,
sais
ouais, je ne sais pas trop.
Ouais.
Ouais. Ah, voilà.
Moi, j'ai du mal avec les choses en pis, quoi.
Ouais, ouais. 3,1416, non ? Combien pis ?
Ah, oui, c'est
ah, oui.
Ça.
Oh,
voilà.
Oh,
joli, joli.
Il est bon, il est bon.
Ouais,
est
donc,
bon.
Mégafauna, donc, qui nous a bien plu, parce que l'histoire d'un homme, de deux civilisations qui s'affrontent.
Ouais.
Donc, vous allez le lire. Chez Sarbacane.
Tout à fait.
Nous avions Yojimbot.
Oui.
De Sylvain Repos. Chez Dargo. Donc, des histoires de robots qui essayent de. D'aider un jeune garçon
à
retrouver son père.
Voilà,
dans un
monde post-apocalyptique.
Oui, mais dans une espèce de parc
d'attraction.
Bon, voilà.
Un peu étonnant. Très belle BD aussi.
Oui, ouais, c'est très très sympa.
Ouais.
Qui sera certainement là l'année prochaine.
Il sera là normalement.
Oui, il sera là. Oui,
espérons, nous espérons.
Dès le vendredi soir. Mais si mes informations sont bonnes.
Oui. Et puis donc la fête des ombres.
Ouais.
Qui est notre Tour d'Ivoire de 2021, les grands gagnants, par l'atelier Santo. Mm-hmm. Alors aux éditions
Isikinisho.
Ouais, un truc comme.
Joli ce qu'il y a.
On aura le temps de l'apprendre d'ici.
Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se trouve à aider une ombre, je dirais, à passer dans l'au-delà, on va dire, un peu.
C'est
quelque
ça.
Chose comme ça. Voilà.
Ouais.
Donc, très dans l'esprit japonais.
Oui.
Ah, j'allais dire chinois, mais non, japonais.
Ah non, japonais.
De très beaux dessins à l'aquarelle. Voilà, c'est assez poétique hein, comme histoire.
Ouais.
Oui,
voilà.
c'est très touchant parce qu'en plus, je trouve qu'il y a, enfin, bon, les auteurs ont une bonne connaissance de la civilisation japonaise.
Ouais.
Ça se sent,
ouais.
Ça se sent non seulement dans le dessin, mais je trouve que dans les rapports entre les personnages, dans les lieux, enfin, il y a beaucoup de
énormément de choses dans le côté même culturel, dans le rapport des personnages entre eux. Enfin, on sent qu'ils s'en sont énormément inspirés. D'ailleurs, de ce que je sais, parce que l'atelier Sento a un blog. Ils montrent régulièrement leur voyage au Japon.
Exactement.
Donc clairement,
ils
sont imprégnés.
Et l'éditeur aussi.
Oui, tout à fait. Ce sont des grands fans.
Voilà, et donc là, c'était le premier tome que nous avons élu. Et le deuxième tome vient de sortir ou va sortir en ce moment. Donc voilà, donc l'histoire est complète en deux tomes.
Et ils seront là donc pour le prochain festival à Tour de Bulle qui aura lieu les 18 et 19 septembre 2022.
Tout à fait. Vous êtes bien informé, mon cher Philippe.
Mais oui, j'ai mes sources.
Et nous annonçons, ce n'est pas encore certain, mais il y a de fortes chances qu'une belle expo soit faite autour de ces auteurs. Nous l'espérons en tout cas.
Ouais.
Et puis il y a eu d'autres prix.
Donc il y a eu le prix pour lequel nous ne pouvons rien faire, mais c'est le prix que les enfants décernent, prix Tour d'Ivoire des Mômes.
Tout à fait, prix Tour d'Ivoire des Mômes, où il y avait également de très beaux concurrents cette année. Sandré Hazel de Carensac et Tom Picot. Nous avions L'homme qui courait après sa chance de Posla. Nous avions Bricole et Bestioles de Anna Gonzati. Et Zoya de Pog et Moonlink, qui est donc la bande dessinée qui a été récompensée par les enfants. Formidable bande dessinée qui nous plonge dans un univers un petit peu, on va dire, ténébreux, de jeunes filles adolescentes dans un orphelinat où visiblement les exploite, un jeune garçon qui très mystérieusement a réussi à entrer et arrive à les faire sortir, et puis surtout un étrange homme qui manipule tous ses enfants et qui cherche visiblement la bonne personne génétiquement parlant, enfin bref, un mélange de magie, de contes.
C'est un peu Dune revisité.
Non, de très loin quand même, hein, mais on a un mélange de science. Là, on est sur de la science-fiction, effectivement, un mélange de science et de magie avec un très très bon équilibre en fait, et qui a énormément plu donc à nos petits votants, votantes, enfants.
Et c'est mérité.
Très mérité, et on était très très contentes, très contents de récompenser Moonlit pour, donc c'était la première bande dessinée, et qui était très émue de ça, qui nous a même dit clairement que grâce à ce prix, le tome 2 aura lieu a priori, puisque l'éditeur se datait tout simplement par manque d'argent, et grâce à tour de bulle, la première BD va être réimprimée,
est en cours, je crois.
Hein, et donc va pouvoir donner un tome 2. Voilà, on fait des choses quand même,
super,
en tant que festival.
Non mais c'est ça, c'est aussi un de nos objectifs, c'est donc de promouvoir la jeune bande dessinée, et d'aider des auteurs dont on aime le travail, il faut quand même le dire. On ne fait pas ça gratuitement, nous c'est qu'on aime ce qu'ils font, et on a envie de le faire savoir, et on fait
le
tout
partager,
par passion, tout à fait. Et puis donc, également à l'ombre de la Tour d'Ivoire, Philippe, tu
absolument.
Nous en parles
rapidement. Alors, à l'ombre de la Tour d'Ivoire, c'est donc un prix qui est à partir d'une présélection faite conjointement par des membres de la Tour de Bulle, des visiteurs et visiteuses de prison, du personnel pénitentiaire. Donc, on sélectionne 4 albums. Et ensuite, ces 4 albums sont donnés à des détenus à lire. C'est les détenus eux-mêmes qui votent et choisissent qui choisissent un album. Alors, pour la petite histoire, cette année, il y a quand même eu plus de 50 votants.
Quand même, hein.
Et là, on était extrêmement étonnés parce que, donc, détenus à la maison d'arrêt, ça veut dire que c'est aussi un travail ou de la médiation qui est ressentie par les détenus. Alors, c'est pour amener la bande dessinée et la culture aussi dans des lieux où elle n'est pas toujours.
Ouais.
Et donc, cette année, les quatre présélectionnés étaient Malaterre de Pierre-Henri Gaumont, chez Dargaud, Lippe de Laurent Galandon et Damien Vidal chez Dargaud, donc Le Repas de Yen d'Aurélien Ducoudray, et Le Vainqueur, et donc Le Loup de Jean-Marc Rochette chez Casterman.
Oui.
Et donc Le Loup de Jean-Marc Rochette nous raconte l'histoire d'une, je pense que c'est ce qui a beaucoup plu, alors ça se passe dans les montagnes, dans les Alpes, et c'est la rencontre entre un vieux briscard, vieux montagnard, qui est à la recherche d'un loup, qui
a mangé ses brebis, je crois.
Au départ, il y a cette recherche qui se passe dans des endroits qui sont désertiques. Je vous dis pas comment ça se termine parce que c'est vraiment, moi je trouve que c'est assez touchant. C'est une BD assez touchante pour son rapport entre finalement d'abord les grands espaces, les personnes, celui qui vit seul, et donc la faune qui est autour. Dans ce cas-là, c'est le loup, avec le caractère du loup.
Donc, l'homme face à la nature.
C'est très très chouette, et c'est un bon choix.
On n'en présente plus Jean-Marc Rochette, qui est un vieux de vieille.
Tout à fait.
Mais qui est quand même à l'origine du transpersonnage.
Oui,
absolument.
Et bien voilà, les gars, écoutez, on arrive déjà à la fin en fait de cette émission.
C'est dommage.
Déjà,
nous, on est bien, là,
le temps est passé vite. Hein. Bon, et bien écoutez, merci à tous. On dit juste vraiment très très peu de temps. N'hésitez pas à aller au festival BD Boom, donc festival qui se passe à Blois. On invite toujours à aller voir les autres festivals de BD du coin, donc allez-y les yeux fermés, il y a toujours des auteurs incroyables là-bas, des animations superbes, des expos.
Et cette année, il y aura Posy Simon, une rencontre avec Posy Simon.
Super,
j'ai vu ça.
Ça va être incroyable.
Une très très grande autrice anglaise.
Ce sera les 19, 20 et 21 novembre à Blois, courez-y.
Absolument.
Merci beaucoup les garçons.
Merci à toi alors.
À bientôt tout le monde.
À bientôt.